possiblement vôtre, une émission d'APF France Handicap, territoire Drôme Ardèche.
Nous voilà pour l'émission possiblement vôtre du mois d'avril. L'enceinte valentinoise du territoire Drôme Ardèche de APF France Handicap est en charge de cette émission liée au monde handicap. Si vous avez de nouvelles idées ou de nouveaux souhaits d'activité, si vous disposez de savoir-faire que vous souhaiterez partager, n'hésitez pas à nous contacter à la délégation. Les modalités vous seront données à la fin de cette émission. Les acteurs se présenteront en préambule de chaque séquence attribuée. Aujourd'hui, les sujets de notre séquence sont la première, ostéopathie et handicap, avec Julia, la seconde, atelier informatique, avec Jean-Jacques, la troisième, FNATH, avec François.
Nous sommes toujours dans l'émission possiblement vôtre. Nous allons parler de ostéopathie et handicap. Le terme de handicap peut correspondre à un grand nombre de pathologies, aussi bien physiques que des cas de déficience intellectuelle. Les indications de l'ostéopathie peuvent s'adresser à tout un chacun, l'ostéopathe ayant pour objectif de prendre chaque patient dans sa globalité et de s'adapter à lui de façon spécifique. Les personnes porteuses de handicap peuvent souffrir, comme tout un chacun, de douleurs dites fonctionnelles, c'est-à-dire n'ayant plutôt un déséquilibre par rapport à son fonctionnement normal. Sur ce type de douleur, l'ostéopathe a un grand champ d'action, mais ce type de symptômes peut bien souvent être accentué par plusieurs paramètres qui peuvent être liés au handicap. Des déformations physiques liées à la pathologie, elles augmentent les contraintes sur certaines zones du corps, des atteintes organiques ou structurelles, l'altération de la structure et du fonctionnement de certains organes dans certaines tensions locales et à distance de ces organes. Dans certains cas, le handicap est la conséquence d'un traumatisme, comme un accident par exemple, et celui-ci peut également causer des blocages qui, avec le temps, peuvent être à l'origine de douleurs. Parfois, la douleur ou même la simple gêne est difficile à exprimer pour certaines personnes et cela peut avoir pour conséquence l'installation de tensions dans le temps, tensions qui pourront s'accumuler et conduire à une douleur plus intense. Madame Crémieux, ostéopathe de son métier, va nous en dire un peu plus au travers de plusieurs questions. Tout d'abord, décrivez votre parcours dans le monde de la médecine en qualité de masseur kinésithérapeute ostéopathe.
Alors tout d'abord, j'ai commencé mon activité professionnelle dans un centre de rééducation, le Centre des Baumes à Valence, qui reçoit un public assez varié de polytraumatismes, d'accidents de la route, de la vie et puis de conséquences liées à des affections rhumatismales. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans là-bas et auprès de patients qu'on essayait de remettre debout et de remettre dans la vie. Ensuite, j'ai continué mon parcours par l'ostéopathie où je me suis formée pendant que j'étais dans ce centre de rééducation et j'ai pris mon envol pour me spécialiser en rééducation de la main et du membre supérieur en tant que kinésithérapeute et pour l'ostéopathie, ben, pour toutes les affections de la vie que l'on peut souffrir. Donc, je suis installée à Valence et j'exerce ces deux métiers avec grand bonheur.
Vous exercez ces métiers principalement à votre cabinet ou dans d'autres structures ?
Alors essentiellement dans mon cabinet.
J'imagine que votre clientèle est composée de patients dits normaux et de patients dits handicapés. Quelles sont les proportions ?
Alors les proportions sont celles que l'on peut retrouver dans la société. Alors il peut s'agir de problèmes de handicap physique ou psychique. Il m'est arrivé également, donc dans une moindre proportion, de traiter des patients qui souffraient de troubles d'autisme. Alors, il est vrai que l'approche de ces patients n'est pas évidente, d'arriver à les toucher, à les faire s'installer sur une table et à ce que l'autre vienne au contact et se laisse faire. Voilà.
Pour un patient handicapé, Y a-t-il des précautions particulières à considérer ?
Alors, il faut considérer tout d'abord bien connaître sa pathologie, connaître son parcours, comment il a évolué, comment il s'est remis de sa maladie, de son accident. Et ensuite, quels sont les troubles qui sont restés pour traiter au mieux les douleurs ou les déficiences qu'il peut y avoir. Par exemple, pour un patient souffrant de problèmes d'épaule, on n'abordera pas du tout un patient dit rhumatismal souffrant de douleurs d'épaule liées à une posture au travail et d'un patient qui s'est relevé d'un accident de la circulation et qui a des tensions, de l'hypertonie spastique au niveau d'un membre et qui souffrira de son épaule.
J'imagine que dans ce contexte, vous êtes amené à collaborer avec le médecin généraliste du patient en question.
Alors, il arrive parfois que l'on soit en contact direct avec le médecin et parfois, il arrive que non. C'est au fil de l'interrogatoire et des examens que le patient peut nous apporter que l'on peut traiter au mieux le patient.
Concernant les consultations, elles se passent à votre cabinet ou à l'extérieur ? Hôpital, centre de rééducation, etc.
Alors, elle se passe essentiellement au cabinet.
Je crois que vous avez une prédilection pour la chirurgie et les soins liés à la main. Pouvez-vous développer ?
Alors, en effet, je trouvais que la main était un bel organe et complexe. Et je trouvais ça assez difficile et complexe à comprendre, donc, et j'ai voulu fouiller et en savoir un peu plus et comprendre. Donc, ça m'a vraiment passionnée, ça me continue de me passionner. Je découvre de nouvelles techniques, nouvelles approches de la douleur, de la chirurgie en rééducation, donc, grâce à l'évolution des neurosciences qui nous apprennent à comprendre un peu mieux comment peut fonctionner la main et comment elle est très intriquée avec le mode de fonctionnement de notre cerveau. Et l'approche du monde.
Comment avez-vous découvert ce monde de la main ?
Alors, au travers de stages que j'ai suivis quand j'étais étudiante en kinésithérapie, notamment un des premiers services SOS Main à l'hôpital Bichat, et j'ai trouvé l'approche assez intéressante de par les techniques qui étaient assez complexes au niveau de la chirurgie et savoir exactement ce qu'il fallait faire pour tel ou tel patient. C'était pas forcément de faire de l'écrase-balle ou des exercices de tonification avec de la pâte, mais comprendre comment fonctionnaient ces muscles très fins et la sensibilité aussi de la main. Savoir qu'une main peut être aussi totalement aveugle et ne pas sentir l'objet qu'elle a dans sa paume. Donc c'est au travers de tout cet éventail et cette complexité de la main que je me suis épanouie.
Et j'imagine que c'est de la formation quasiment continue.
En effet, c'est de la formation que j'effectue de moi-même, de par des recherches de lecture sur Internet, sur d'autres livres, mais aussi de rencontres avec d'autres professionnels de la santé qui sont spécialisés dans la main. Donc en fait, on se réunit tous les deux mois, à divers endroits autour de la région Rhône-Alpes, mais aussi en région parisienne. Je fais partie du groupe d'études de la main et du membre supérieur, le GEMSOR. Et en fait, c'est un groupe de passionnés qui se réunissent avec leurs deniers propres et réfléchissent comment organiser les congrès et s'obliger à faire des études et réaliser des publications et des communications.
J'imagine que sur Valence, il y a d'autres personnes qui exercent dans ce monde de la main. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
Alors, sur Valence même, il n'y en a pas d'autres. Je suis la seule pour le moment. Alors, au niveau de la clinique de Guy Rengrange, il y a Emmanuel Bourne qui a travaillé avec moi au niveau du DU de rééducation et appareillage de la main. Ensuite, il y en a d'autres également que vous trouverez sur le site du GEMSOR si vous souhaitez les rencontrer.
Eh ben, merci pour ces explications, Madame Crémilleux. Je pense qu'avec de telles explications, nous en savons un peu plus sur le monde de l'ostéopathie. Merci à vous. Madame Crémilleux, avant de conclure, quels sont les buts à atteindre pour un patient handicapé, Comment décrivez-vous la relation entre le patient et vous ?
Alors, c'est avant tout un travail d'équipe. Bien connaître sa motivation, donc savoir ce qu'il est possible de faire et de réaliser avec le handicap, et vraiment ne pas attendre qu'on apporte toutes les solutions. Par exemple, j'ai eu le cas de patients qui ne pouvaient pas plus se servir de leurs mains du fait d'un AVC et qui n'avaient pas du tout de sensibilité. La main était totalement fermée et spastique et exclue. Et après, au fil des séances, voir ce qu'il est possible de faire. Donc, est-ce qu'on peut détendre la main déjà, allonger le coude, poser la main sur un objet et vraiment une communication d'échange d'une séance sur l'autre, de petits buts à atteindre. Et beaucoup de motivation. Il faut donner beaucoup de soi-même en tant que thérapeute, mais aussi que le patient s'investisse pleinement. Il faut que la personne arrive à se bouger, à se prendre en charge. Et alors là, on arrive à accomplir des choses très intéressantes. Donc, j'ai eu le cas d'une plusieurs personnes qui avaient, par exemple, des difficultés à se servir de leurs mains et qui, au bout de longs mois, de parfois même d'années, arriver à utiliser la main pour débarrasser, par exemple, un lave-vaisselle, plier du linge, des choses très simples de la vie de tous les jours et qui n'étaient pas possibles ou même pas envisagées auparavant. Après, il y a des limites. Hein. Bien sûr, on ne peut pas redonner vie à parfois un membre parce que c'est fichu. Mais avant de se dire, est-ce que c'est totalement exclu ? Est-ce qu'on a vraiment tout essayé ? Voilà.
Merci pour ce petit complément et bonne continuation. Dans l'émission possiblement vôtre, nous allons traiter de la séquence atelier informatique. L'outil informatique a aujourd'hui une place prépondérante dans notre société d'un point de vue professionnel ou privé. La délégation APF France Handicap se propose d'assister dans l'utilisation de tel outil. Cet atelier se déroule à la délégation ou à domicile, si Valence et ses alentours, en cas de difficulté de déplacement. Les thèmes sont divers et variés,
en fonction de la demande exprimée. Manipulation et gestion de l'ordinateur, idem pour la messagerie, besoins spécifiques, photos, recherche Internet, outils de communication, etc. La force de cet atelier, pas de contraintes de date et d'horaire, atelier flexible et individuel. Jean-Jacques, bénévole en charge de cet atelier, va développer autour d'une série de questions. Jean-Jacques, tout d'abord, merci de te présenter.
Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques, je suis à la retraite. Je travaillais avant un petit peu dans la technique. Donc quand je suis passé à la retraite il y a 3 ou 4 ans, je me suis dit que ça serait une bonne idée de pouvoir monter cet atelier.
Et en deux mots, il est venu comment cet atelier ? C'était un souhait personnel ?
Oui, en fait, c'est une idée que j'ai soumise à l'APF. J'ai joint l'APF d'abord et puis j'ai participé à quelques activités. Et puis j'avais toujours pensé depuis très longtemps qu'on pourrait faire un atelier comme celui-ci. Donc j'en ai parlé un petit peu, bien sûr, aux salariés, aux directeurs de l'APF qui m'ont dit que c'était une bonne idée. Donc on a développé dans ce sens-là.
Justement, en parlant de APF France Handicap, comment as-tu connu l'association ?
C'est moi, en fait, qui, quand j'étais jeune, après mon bac, je suis parti en Angleterre pendant un an et j'avais travaillé dans un centre pour handicapés. Et donc, tout le temps que je travaillais, après, je me suis dit que lorsque je serai à la retraite, je ferai du bénévolat et je serai proche des handicapés. Donc après, il y a eu une bonne... alignement des étoiles entre le fait que j'aimais bien ce qui était sur l'ordinateur et puis que je voulais faire ce travail de bénévole avec des handicapés. Mais pour être plus précis, quand j'ai cherché avec quelle association, je suis allé sur France Bénévolat. Et j'en profite pour dire que l'APF a des annonces ouvertes, des recherches de bénévoles sur France Bénévolat.
Merci pour ce petit mot. De manière un peu précise, comment cet atelier, l'idée de cet atelier est-elle venue ?
Oui, comme je le disais précédemment, j'ai trouvé que travailler avec des personnes à mobilité réduite était en fait très enrichissant. Il y a un contact qui est très important. Et le fait qu'une fois à la retraite, je voulais continuer avec un développement de, je ne vais pas dire d'expertise, mais enfin de choses un petit peu techniques, c'était une bonne conjonction des deux choses. Peut-être à ajouter aussi, cet atelier, c'est avec l'APF, mais c'est aussi au Plovier, qui est à Saint-Marcel. Et il y a en fait, j'ai mis un ou deux ordinateurs au Plovier qui sont là depuis plusieurs années maintenant et j'y vais régulièrement, en général deux fois par semaine. Et donc j'accueille les résidents du Plovier, on fait des choses ensemble. Là, ce n'est pas vraiment l'apprentissage de l'outil, c'est plus souvent c'est des jeux, c'est d'aller sur Internet, communiquer avec la famille, écouter de la musique, des choses comme ça.
Justement, en parlant du Plovier, maintenant que le Plovier a déménagé sur Romans, comment se déroule cet atelier ?
En fait, il y a la moitié du Plovier, en termes de résidents, c'est plus que la moitié, c'est peut-être 60% des résidents. Oui. Qui sont passés sur Romans. C'est trop loin pour moi pour y aller régulièrement. Mais par contre, il y a toujours des résidents qui sont restés dans un des deux pavillons. À Saint-Marcel et donc je continue à y aller régulièrement, sans problème.
D'accord. Quels sont les problèmes généralement soumis ?
Oh, c'est en général très simple. C'est en général, il y a déjà bien sûr la mise en œuvre d'un nouveau matériel, donc un ordinateur, un écran, etc. Il y a aussi des problèmes de connexion évidents, Wi-Fi par exemple. Lorsqu'il y a une nouvelle boîte Wi-Fi qui est installée, il y a bien sûr tous les problèmes qui ont été liés avec le Covid, lorsque les gens ont commencé à faire Teams et puis... Il y a un deuxième avec Zoom, bien sûr.
Zoom.
Oui, bien sûr, Team and Zoom. Avant, déjà, il y a eu quelques personnes, et je pense que ça, c'est très bien. C'est des personnes qui voulaient être en contact avec leur famille à travers Skype. Donc, ça, on a fait ça plusieurs fois aussi. Après, il y a des problèmes du style, un programme s'est désinstallé, par exemple, il faut le réinstaller, des choses comme ça. Donc, en général, c'est des problèmes presque mineurs. J'ai eu à faire deux ou trois fois des réinstallations avec un Windows qui avait crashé complètement. Et aussi, j'ai fait quelques passages de Windows 8 vers Windows 10, par exemple, donc qui demande un petit peu plus de travail. Mais il y a aussi des choses, des mises à jour qui durent très très longtemps, et les gens sont un petit peu nerveux à propos de ça.
D'accord. La flexibilité jour et heure de cet atelier est-elle facile à gérer ?
Ben, pour le moment, oui, c'est relativement facile parce qu'il y a relativement peu de personnes. Je ne vais pas dire pas assez, hein, mais il y a peu de personnes. Donc ça veut dire qu'en général, j'essaie d'être disponible, bien sûr. C'est aussi très intéressant, hein, parce que chacune des personnes qui appelle souvent est avec un problème différent, sur un appareil qui est différent. On parlait du PC, mais il y a aussi le smartphone, le portable, donc avec pas mal de problèmes aussi sur les portables. Donc chaque fois, c'est un petit défi. Donc c'est d'un point de vue, je dirais, technique, c'est intéressant. Et puis bien sûr, il y a le contact avec les personnes. Mais je sais pas, peut-être qu'en dehors du plovier, j'ai peut-être aidé peut-être une vingtaine de personnes ou quelque chose comme ça, ou 25 personnes peut-être. Donc c'est assez facile à gérer, en fait.
J'imagine qu'il doit y avoir aussi des interventions sur tablette.
Oui, un petit peu les tablettes, mais pas autant que je pensais. Peut-être que les tablettes, je pense, peut-être, mais les téléphones aussi, mais les téléphones, les gens sont obligés. Mais l'aspect tactile, des fois, n'est pas très facile à gérer pour des personnes qui ont des problèmes de mobilité. Donc, c'est souvent plus facile pour eux de gérer une souris et puis un écran et puis un clavier mécanique.
Comment sont les relations avec les participants de ces ateliers ?
Ben, en général, très, très sympathique, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est l'occasion d'échanger sur des petits problèmes informatiques, mais c'est aussi l'occasion un petit peu de discuter de la vie de chacun, d'avoir un aspect un petit peu social. Donc, c'est oui, encore une fois, très, très sympathique.
Quels sont les retours suite à une intervention ?
Ben, je pense que c'est bon, parce que souvent les gens me rappellent, hein. donc je pense que oui, ça se passe bien. Je pense que un des cas, par exemple, les plus compliqués que j'avais, c'est une personne qui voit très très mal, vraiment très très mal. Elle voit probablement des lettres de 5 cm de hauteur. Et pas moins que ça. Donc ça, c'est, pour moi, ça a été très difficile à gérer. Je ne pense pas l'avoir bien résolu, hein. Mais donc là, j'ai contacté l'ergonome et on en a discuté. Elle a essayé de prendre le relais. Mais bon, il y a des fois des cas très difficiles, hein, bien sûr.
Es-tu amené à faire appel à l'extérieur, connaissance experte dans tel ou tel domaine, prestataire informatique?
Non, bah au niveau informatique, encore une fois, jusqu'à présent, je me suis toujours débrouillé. Après, bien sûr, je suis en contact avec, parce que on a vite fait déborder de problèmes informatiques sur des problèmes personnels ou sociaux, médicaux. Donc chaque fois, hein, les personnes me sont référées par quelqu'un de l'association ou du SAVS, donc le service d'assistance individuelle. Et en général, dès que je sens qu'il y a un problème qui dépasse l'informatique, je suis toujours en contact avec ces personnes qui m'ont référé et pour expliquer le problème. Mais encore une fois, en général, ce que je fais remonter, c'est pas tellement des problèmes techniques, c'est plus des problèmes, encore une fois, personnels, financiers, etc. Bon, il y a des problèmes, par exemple, aussi, hein, c'est idiot, mais souvent les personnes ont des difficultés de rangement. Et il y a des problèmes avec les mots de passe. Donc ça, c'est des problèmes. Il y a des fois, on voit 10, 15, 20 mots de passe qui ont été accumulés dans tous les sens. Donc une des choses que je fais, par exemple, c'est que je crée un petit fichier où je mets les mots de passe. Et bien sûr, ce fichier-là, je le communique donc à la personne qui m'a référé, la personne en difficulté.
Merci à Jean-Jacques pour la présente interview et bonne continuation avec cet atelier et ses différents participants. Merci à toi.
Merci.
Possiblement vôtre, nous allons parler de la FNATH, Fédération Nationale des Excellences de la Vie, avec une représentation géographique sur tout le territoire national. La FNATH est efficace et représentative. Elle s'appuie sur des militants bénévoles, des salariés, des juristes et des partenaires experts, notamment médicaux. La force de la FNATH, 1000 antennes couvrant le territoire français, 100 000 adhérents et 10 000 bénévoles, et près de 100 ans d'existence. La FNATH fédère un maillage d'associations départementales ou interdépartementales et de sections locales au plus près des citoyens. D'autres associations ont rejoint la FNATH. Le siège fédéral est situé à Saint-Étienne, l'antenne nationale à Paris. La FNATH est dirigée par un conseil d'administration élu par les représentants des associations départementales ou interdépartementales réunies en congrès. Elle réunit chaque année une assemblée générale qui adopte notamment le rapport d'activité et définit la politique générale de l'association. Les missions de la FNATH se déclinent en plusieurs actes. Revendication et défense collective, l'accompagnement individuel, l'amélioration du quotidien, la prévention. Nous allons mieux connaître cet environnement au travers d'un questionnaire. Avez-vous des remarques
ou des compléments à apporter à cette présentation succincte de votre association ?
Non, je pense que vous avez dit rapidement un petit peu sur le, au niveau national ce qu'était la FNAT.
Oui, tout à fait. Donc, je rajouterai au niveau départemental, nous avons donc 1200 adhérents. Nous avons 26 sections locales. Et plus de 200 bénévoles.
D'accord. Concernant vos actions envers les pouvoirs publics, j'imagine que vous siégez dans plusieurs commissions ou instances. Merci d'approfondir.
Oui, donc effectivement, au niveau départemental, nous siégeons donc dans plusieurs commissions. Nous sommes à la direction départementale du territoire, donc pour tout ce qui est accessibilité. Nous sommes administrateurs au niveau de la CPM de la Drôme. Nous sommes présents, bien sûr, à la maison départementale des personnes handicapées, qui s'appelle maintenant Maison de l'autonomie. Et nous sommes donc effectivement dans le collectif Drôme Handicap et collectif Ardèche Handicap. Et bien sûr, au niveau des sections locales, beaucoup de représentants et dirigeants des sections locales sont également dans pratiquement toutes les commissions d'accessibilité de leur commune.
Oui. C'est complet, je pense.
Oui, tout à fait.
J'imagine que l'accompagnement de vos adhérents est essentiellement juridique et administratif. Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples concrets ?
Donc, au niveau départemental, le groupement Drôme Ardèche, nous avons donc un salarié qui est M. Fleury, qui est notre conseiller juridique et qui est spécialisé en droit de la sécurité sociale. Et effectivement, donc, nous accompagnons, nous défendons et nous assistons nos adhérents devant les juridictions de sécurité sociale.
Bon, j'imagine que pour certains litiges, vous êtes amené à traiter avec les pouvoirs publics. Qui sont-ils ? Existe-t-il un exemple positif, un exemple négatif ? Par exemple, l'administration, le conseil départemental, par exemple.
Oui, mais là, on a... Effectivement, au niveau du conseil départemental, que ce soit de la Drôme et de l'Ardèche, on a des liens, on va dire, dans la mesure où ce que nous faisons, c'est quand même un secteur, on va dire, humanitaire, parce qu'on évite quelque part aux gens de tomber dans la précarité, mais c'est les seuls liens qu'on a avec ces administrations, et à ma connaissance, on n'a pas de litige particulier. Maintenant, dans l'accompagnement des gens, dans l'aide qu'on peut avoir de ces deux administrations, qui sont le conseil départemental de la Drôme et de l'Ardèche, on est quand même soutenu, on a à notre disposition certaines compétences avec eux, mais ça va uniquement dans l'amélioration des conditions d'accessibilité, principalement au niveau communal. Voilà, on est plus maintenant au niveau défense des droits et au niveau juridiction, on est tout à fait autonome, mais à mon avis, on n'a aucun problème avec ces administrations.
Oui, tout à fait. Monsieur Gave, voulez-vous compléter ?
Je dirais non, oui, je confirme ce que François dit, on n'a rien à rajouter là-dessus. Quoi.
Pour le chapitre amélioration du quotidien, quelles sont les solutions concrètes que vous proposez ?
Alors, nous avons, depuis peu, nous avons mis en place une convention avec la GFIP, hein, qui est le fonds de gestion des 6% des personnes en situation de handicap. Donc, cette convention nous amène donc à orienter déjà les personnes victimes d'un accident de travail ou maladie professionnelle ou tout autre accident vers les acteurs qui peuvent éventuellement les accompagner pour une réinsertion professionnelle. Ensuite, la FNAT dispose, d'un service qu'on appelle FNAT Service, un service d'amélioration du sort des personnes handicapées. Donc, ça va de l'aide à la personne. Ça va sur des loisirs, on part également sur du e-commerce et également on va sur tout ce qui est aspect financier, c'est-à-dire qu'on sait que toute personne en situation de handicap, on a quand même du mal à obtenir des prêts ou avoir des cautionnements, donc la FNAT a des partenaires et voilà, c'est une aide qu'on peut apporter à nos adhérents.
Tout à fait.
Un petit complément, monsieur Gab ?
Oui, non, mais voilà, quoi de plus,
Bon. Quelles sont les campagnes de prévention que vous mettez en place ? Communication classique ou usage avec des technologies nouvelles ?
Oui, eh ben, nous faisons des préventions d'entreprise. Donc avec nos adhérents, nous apportons des témoignages concrets sur, par exemple, un accident de trajet. On sensibilise les entreprises. C'est quand même assez bien vu par les entreprises. Dû à un accident et l'après-accident, donc on sensibilise les personnes en entreprise.
Vous intervenez régulièrement dans les entreprises ou à la demande ?
On prospecte les entreprises et à la demande, nous faisons de la prévention.
D'accord. J'imagine que les bénévoles ont une grande importance. Comment sont-ils recrutés ?
Alors, c'est vrai que de toute façon, la FNAT n'aurait pas de bénévoles. La FNAT, c'est pas grand-chose aujourd'hui parce que de toute façon, quand on regarde un petit peu le secteur Drôme-Ardèche, on a un salarié et sur l'ensemble du territoire, donc des deux territoires, on doit avoir à peu près 200 bénévoles. Et comment sont-ils recrutés ? Eh bien, écoutez, nous, on se contente un petit peu de la... Comment dire de la capacité ou des expériences qu'ont certaines personnes. On n'est pas là à vraiment imposer quoi que ce soit. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que de toute façon, même aujourd'hui, la FNAT Drôme-Ardèche cherche toujours des adhérents. Il y en a besoin des bénévoles. Et on a toujours besoin de renouvellement. Et on n'a pas besoin d'être juriste pour rentrer chez nous. La première chose qui est demandée à un bénévole, déjà, c'est l'écoute. C'est savoir écouter, savoir comprendre ce que souhaite la personne, pouvoir faire un état des lieux de son état et pouvoir transmettre donc cet état des lieux à notre juriste. On a besoin des gens qui ont fait un petit peu de comptabilité parce que chaque section est indépendante. On a également besoin de personnes en communication parce que si on ne communique pas, on n'est pas connu. Donc il y a tout un petit ensemble de choses. Et la seule chose que je tiens à dire, c'est que toutes les compétences sont les bienvenues.
J'imagine que, toujours concernant les bénévoles, y a-t-il une certaine fidélité des bénévoles ou un gros turnover ?
Non, nos bénévoles, il y a de la fidélité, mais il y a des anciens qui s'essoufflent et on cherche de la jeunesse, quoi. Voilà, et tout le monde sera le bienvenu. Vous pouvez vous renseigner nous appeler, nous contacter. On a un site internet, il n'y a pas de souci. Si vous voulez un conseil pour venir nous rejoindre, vous serez accueillis à la FNAT.
C'est ce que l'on appellerait un renouvellement classique, quoi.
Oui, tout à fait. Il faut faire du roulement. Il y a, comme dans toute association, problème du bénévolat. On recherche des bénévoles. Éventuellement, ils seront les bienvenus.
Bien sûr. Merci à vous pour la présente interview. Je pense que nos auditeurs en sauront un petit peu plus sur la FNATH.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce moment a été positif pour vous, que vous avez appris des choses. Nous comptons sur vous pour notre émission du mois prochain. Nous rappelons que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Si une action quelconque, accompagnement, encadrement, ne pas hésiter à nous contacter. Si toutefois vous avez des questions à propos des sujets abordés ou des suggestions de sujets pour les prochaines émissions, vous pouvez nous contacter aussi. Pour tout contact, utilisez le site Radio Média, www.radio-media.com ou au téléphone 04 75 44 16 15. Ils se feront un plaisir de vous communiquer notre mail, possiblement vôtre.
Possiblement vôtre, une émission d'APF France Handicap, territoire Drôme-Ardèche.